mon intervention, j'ai essayé de l'inscrire un peu dans ce cycle de l'homme et l'animal. Pas seulement parce que le pastoralisme, c'est une forme, évidemment, et l'élevage, c'est une forme de relation de l'homme à l'animal, mais aussi parce que peut-être que ces enjeux sociétaux, ces nouvelles relations de la société actuelle de l'homme à l'animal re-questionnent, repositionnent le pastoralisme, voilà, en général. Alors, deux mots d'introduction pour redire effectivement que cette question du pastoralisme, alors ça c'est l'ancien directeur de la MSH qui parle, c'est une thématique éminemment pluridisciplinaire, c'est une thématique qui mobilise quand même depuis longtemps la littérature scientifique, y compris européenne, mais qui mobilise aussi plein d'autres approches, plein d'autres médias, y compris parler avec la région cet après-midi de il y a un festival des films sur le pastoralisme qui existe déjà depuis plusieurs années à Grenoble, par exemple. Donc, voilà, c'est un champ qui suscite beaucoup de travaux. Évidemment, on pense, alors je ne vais pas parler de la géographie d'abord, mais on pense à l'histoire, à l'archéologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie, parfois à la sociologie. Tout champ scientifique qui ont produit depuis longtemps des travaux à différentes époques et qui continuent. S'agissant des géographes, ça fait partie d'une des disciplines qui a beaucoup investi, je ne dirais pas le plus, hein, il n'y a pas de hiérarchie, mais qui a beaucoup investi cette question du pastoralisme, et y compris à Clermont-Ferrand, puisque non seulement Éric Bordessoul vient de rentrer comme collègue qui a travaillé, qui a fait des recherches sur ces questions pastorales, mais si on veut rechercher les grands anciens de Philippe Arbos, Alfred Durand, voilà, toute une littérature, y compris clermontoise, sur ces questions en géographie de pastoralisme. Et puis il y a aussi tout un autre champ, un peu à côté, on va dire, des sciences humaines et sociales, sciences zootechniques, y compris un champ qui s'est même défini par lui-même de pastoraliste, spécialiste de ces questions pastorales qui relèvent, voilà, plutôt des champs écologiques, vétérinaires, agronomie, zootechnie, dont on peut juste dire que finalement il s'est intéressé à cette question peut-être un peu plus tardivement que les historiens, anthropologues, géographes, seulement peut-être, surtout on va dire à partir des années 70, y compris parce que cette forme d'élevage n'était peut-être pas celle qui était celle que l'on pouvait soutenir dans un modèle d'une agriculture, d'un élevage productiviste, intensif. Il était plutôt vu comme une forme d'élevage peut-être suscitant un peu moins d'intérêt, mais que l'on a redécouvert à partir de ces années 70. Donc voilà. Première idée un peu sur ces champs qui s'intéressent au pastoralisme. Deuxième idée pour dire la place importante du pastoralisme encore aujourd'hui. Alors, mon champ va être euro-méditerranéen, puis on va rester quand même souvent en France, mais voilà, c'est un domaine, on donnerait quelques éléments de cadrage, de statistiques, de cartes pour rappeler cette importance, encore actuelle, hein, une nouvelle fois. Peut-être d'une forme d'élevage voilà, qui a des forces, des faiblesses dans tout cet espace. Mais avec la troisième idée, c'est celle que je vais creuser un tout petit peu plus, ce que j'ai appelé un paradoxe pastoral, c'est-à-dire d'une forme d'élevage entre guillemets qui peut sembler convenir parce que c'est une forme d'élevage voilà, qui à la fois justement peut apparaître comme une forme d'élevage qui apporte un certain nombre de services, qui entretient l'espace, y compris montagnard, qui a des vertus écologiques, dans lequel le mythe du bon pasteur avec son troupeau peut illustrer la forme de la relation presque un peu idyllique entre l'homme et l'animal, voilà, avec ses vertus écologiques, sociales, économiques, par opposition à l'élevage intensif, je ne vais pas dire breton, mais vous voyez un peu cette opposition-là. Donc se dire, voilà, c'est une forme qui peut paraître un peu voilà, parfaite dans notre société. Et le paradoxe, c'est que finalement, de plus en plus, ce pastoralisme, il est aussi contesté. Il est aussi critiqué, traduisant peut-être, c'est un peu le fil que je veux tirer, voilà, ces nouvelles relations des sociétés à l'animal, et y compris voilà, ce qui pouvait paraître comme la forme un peu idyllique, peut-être aujourd'hui elle est remise en cause, alors par certains thème sur lequel on reviendra, le retour du loup, des prédateurs, étant un de ces éléments qui re-questionne un peu le rapport des sociétés à l'animal, je dirais de l'animal domestique à l'animal sauvage dans ce cas-là. Voilà un peu la thématique que je voulais un peu aborder sur ce grand champ du pastoralisme sur lequel on pourrait bien sûr envisager beaucoup de dimensions. Alors, bon, j'ai organisé mon propos en trois temps, classiquement. Premier temps, pour revenir un peu à cette place du pastoralisme en France et en Europe. Revenir un peu, dans un deuxième temps, voilà, sur à la fois les crises, mais aussi les atouts qu'il représente. Et puis centrer, un troisième temps, un peu mon propos sur cette question de ce paradoxe pastoral d'un élevage un peu remis en question. Alors, place du pastoralisme en France et en Europe, alors je vais être très bref, mais évidemment quand on parle en bon scientifique de pastoralisme, de transhumance, d'agro-pastoralisme, il y a bien sûr des enjeux de définition qui sont pas simples. Bon, je vous ai remis une définition de collègues agronomes voilà, qui insistent dans cette définition du pastoralisme sur quelques mots-clés que j'ai mis un peu en rouge, hein, sur l'utilisation des parcours, de la végétation naturelle ou peu transformée, les modes d'exploitation dites assez extensives, donc avec des rendements qui peuvent être plus faibles, un nombre d'animaux à l'hectare plus faible, ça va de pair avec cette utilisation des parcours, associés éventuellement à d'autres sources alimentaires pour les troupeaux, qui fait glisser vers l'agro-pastoralisme, et puis un système qui fonctionne soit dans le cadre de la transhumance, je vais y revenir juste après, soit dans le cadre éventuellement de systèmes encore plus nomades, où là les troupeaux se déplacent, si je puis dire, sans arrêt, presque. Voilà. Mais aussi, le pastoralisme, ça peut être des formes moins mobiles où on va produire aussi on va avoir cette activité pastorale sur l'exploitation. Et donc, vous voyez déjà cette définition, elle introduit finalement des formes déjà très très diverses, qui est une difficulté du pastoralisme et qui recouvre une extraordinaire variété de situations. Sur la transhumance, pour reprendre juste cette forme, et parfois on associe un peu, voire on mélange un peu les deux aspects, hein, bon, j'ai repris cette définition aussi d'un collègue, François Valrand de l'INRA, voilà, qui rappelle d'abord l'origine transhumance au-delà de la Terre, au-delà des monts, qui signifie donc là très clairement un déplacement des troupeaux, d'un espace ressource à un autre espace ressource, et donc en traversant certains espaces, en traversant certains territoires, et donc avec cette question de la traversée, du parcours qui est aussi important finalement dans l'analyse de la transhumance, de voir quels sont les territoires traversés, les territoires de départ, les territoires d'accueil, les territoires traversés, finalement, c'est tout un système qui est constitué par la transhumance. Et puis, troisième mot sur lequel je vais revenir, et dernier mot, là, c'est l'agro-pastoralisme. Alors là, j'ai repris la définition du parc national des Cévennes depuis que cet espace Causses et Cévennes bénéficie de la reconnaissance au patrimoine mondial de l'humanité, un peu avant la chaîne des puits. Et donc cette reconnaissance met au cœur de l'UNESCO les paysages de l'agropastoralisme. Et donc il y a eu cette volonté un peu de définir ce que sont ces paysages, mais ce qu'est l'agropastoralisme. Donc comme forme de pastoralisme, on vient de le voir, qui peut être sédentaire ou transhumant, qui utilise des parcours, mais qui aussi combine, c'est la partie agro, hein, combine une production de foin, de céréales, donc, peut-être un peu plus intensive, mais on reste quand même dans un mode d'élevage qui demeure extensif globalement, et qui vise aussi à s'adapter aux disponibilités des ressources, qu'elles soient cultivées ou non cultivées, en fonction des saisons, avec des ressources extrêmement, extrêmement diverses. Voilà, donc, juste ce rappel de définition, hein, sans passer trop de temps, mais qui est important, hein, toujours, définir de quoi on parle. Bon. La deuxième idée sur laquelle je voulais un peu insister, c'est qu'effectivement, ce pastoralisme, c'est un système qui est toujours extrêmement complexe. Alors, on pourrait parler très longuement, y compris tous les travaux qui ont pu être faits pour reconstituer dans la longue durée aussi ces formes pastorales. On n'a peut-être pas encore un modèle parfait de compréhension de l'histoire de ces formes pastorales, mais peut-être de façon très simple, ce sur quoi on peut insister, c'est que le pastoralisme, c'est toujours, on peut dire, c'est une banalité, mais c'est toujours une construction sociale, une construction des sociétés, avec un peu ce qui ressort de la littérature, si on la synthétise un peu, c'est toujours trois éléments clés autour de cette construction sociale. D'une part, l'existence donc d'un espace ressource, de ressources, y compris naturelles, semi-naturelles, qui vont être utilisées, ou des ressources cultivées, des ressources nécessaires pour l'été comme pour l'hiver, pour des périodes plus sèches comme des périodes plus humides. Donc un espace ressource, en un terme très très large. Deuxièmement, un produit rémunérateur et qui peut être associé à des formes souvent assez précoces, y compris si on regarde l'histoire de la transhumance en Espagne, des formes assez précoces de commerce, hein, d'échange. Quand je dis un produit, c'est souvent des produits rémunérateurs, hein, qui commençaient par la laine historiquement, mais aussi la viande, le lait, etc. Et puis, troisième élément, c'est en ce sens-là que ça peut intéresser aussi le regard, j'allais dire, un peu plus politique dans ces systèmes pastoraux, un pouvoir qui va organiser, réguler, y compris ses déplacements, par exemple, s'agissant de la transhumance. Donc, une construction sociale. Deuxième élément dans ce système complexe, on revient au cœur un peu du sujet, peut-être une façon d'être avec les animaux, une façon d'être avec les animaux qui va être nouée par différents acteurs, qui peuvent être des acteurs, directs du pastoralisme, des bergers, des propriétaires terriens, des éleveurs au sens où ils sont peut-être propriétaires du troupeau, mais c'est pas eux qui vont accompagner le troupeau. Un travail qu'on fait avec les étudiants cette année, d'ailleurs, les conflits bergers-éleveurs ressortent assez bien, avec des bergers salariés qui peuvent dire les propriétaires, les éleveurs ne prennent pas en compte suffisamment nos besoins, etc. Et la région devrait s'adresser à nous, ne s'adresse pas à nous pour nous demander de quoi on a besoin, etc. Voilà, donc vous voyez, déjà, il y a rien qu'une diversité entre ces deux acteurs qu'on pourrait mettre dans le même sous le même chapeau. Évidemment, des commerçants, des administrations qui sont toujours intéressées à ces déplacements pour les observer, des transformateurs des produits. Voilà, donc un système très très complexe d'acteurs. Hein. Je cite une petite phrase extraite d'un ouvrage d'un collègue historien d'Aix. Là, la transhumance est autant affaire des notaires et des marchands que des bergers. Elle concerne la ville aussi bien que le village. La transhumance est un commerce. Plus, elle est l'enjeu de tout un système de relations économiques et sociales, quadrillant et structurant un vaste espace. Donc voilà, variété finalement d'acteurs. Et ces acteurs qui entretiennent des relations directes, indirectes, avec les animaux et avec les territoires. Voilà. Pour développer chaque point. Diversité d'acteurs, et j'ajouterais diversité de savoirs, de pratiques. Hein, et donc, il y a aussi, c'est là qu'on peut rejoindre l'anthropologie et d'autres regards qui vont observer de plus près ces savoirs, ces pratiques. Et je dirais ces savoirs et ces pratiques aussi dans les relations, dans les relations à l'animal, dans les relations à l'espace, dans la gestion des espaces, y compris des espaces naturels ou semi-naturels. Bon, troisième et dernier point pour c'est un peu ces éléments de cadrage, pour redire voilà, l'importance actuelle de ces systèmes pastoraux. Alors là, ce tableau, on va le commenter hein, sur des chiffres, il y a plein de points d'interrogation, etc. Ce qui pose déjà la question de comment observer, comment recenser ces formes. Les données sont très éparses, il y a plein de... Voilà, François Valrand et moi-même, on a essayé de réunir des travaux sur une période depuis, entre 2010-2015, mais sûrement plein d'erreurs. C'est pas simple, d'abord parce que tout n'est pas déclaré dans ces formes pastorales. Alors, ce qui est déclaré, là, on s'approche plutôt des formes de transhumance, donc de déplacement, où il va y avoir une forme de contrôle, de déclaration, à un moment qui sont faites à l'administration dès qu'on déplace des troupeaux. Mais ça ne recouvre pas, évidemment, toutes les formes de pastoralisme. Mais juste pour dire que si vous regardez, si on en reste l'Espagne ou la France, c'est des mouvements qui restent encore, au moins ces mouvements de transhumance restent encore importants dans certaines régions, évidemment plus particulièrement. Raoul Blanchard, le géographe, soulignait que la transhumance était fille de la montagne, on prend sa formule, et c'est vrai qu'on va retrouver là des espaces qui sont plus concernés parce qu'il y a de la montagne, parce qu'il y a des relations pleines de montagnes qui perdurent dans l'utilisation, dans le développement du pastoralisme. En termes de cartographie, alors en prenant y compris appui sur les travaux de Brodel, Jean-Claude Duclos et d'autres ont essayé là, un peu de cartographier ces zones de pratique de la transhumance à l'échelle euro-méditerranéenne, en essayant de redessiner ces itinéraires, ces chemins de transhumance. Ça donne aussi une idée de la présence spatiale importante de ce phénomène, encore une fois, que de transhumance, à la fois d'Europe du Sud-Ouest, des péninsules balkaniques aussi, jusqu'à la Méditerranée orientale. Et puis, bon, voilà, c'est qu'une partie de l'espace qui est couvert. On retrouverait aussi des formes pastorales, au moins, dans une partie de l'Europe du Nord, évidemment, également jusqu'à la Norvège, etc. Donc, voilà, une forme omniprésente, spatialement, et encore aujourd'hui. Alors là, je vous ai mis deux petites cartes, sur aussi des travaux qu'on a essayé de faire là, pour un atlas de l'élevage à l'échelle française, avec des données dont je ne dis pas la difficulté qu'on a pu avoir pour les réunir, à la fois sur ces transhumances ovines du grand sud-est de la France, avec à la fois ces foyers des plaines, Bouches-du-Rhône notamment, et ces flux qui rejoignent les Alpes du Nord. Et puis il y a des, à l'intérieur des cercles, il y a aussi des flèches vertes qui montrent des flux intra-départementaux et des déplacements qui se font sur des plus courtes distances. S'agit-il toujours de transhumance, de pastoralisme? Vous voyez, déjà on est à la limite un peu du concept aussi. Et puis là pour les transhumances bovines, également ces flux ici un peu moins marqués par les grandes transhumances, sauf le Massif central, bien étudié par Eric, hein, notamment ces flux des Aveyronnais qui rejoignent le Cantal et une partie du Puy de Dôme, quelques flux de transhumance dans les Pyrénées aussi. Mais vous voyez dans les Pyrénées ou dans les Alpes beaucoup plus de flux internes à chaque département sur ces transhumances. Voilà, tout ça pour dire la complexité, la diversité à la fois des ressources qui sont utilisées par ces troupeaux, landes, alpages, parcours boisés, parcours non boisés, prairies, parfois cultures, etc. Il y a toujours une difficulté. Là, à la limite, c'est plus les gens d'environnement qui peuvent apporter des connaissances aussi sur ce type de ressources utilisées par le pastoralisme. Ça rejoint aujourd'hui dans l'actualité de gros enjeux, y compris à l'échelle européenne, pour reconnaître ces surfaces pastorales, y compris par les aides de la politique agricole commune, avec une tendance, là, conflit en ce moment, notamment dans le sud de la France, sur le fait que partie de ces espaces ne serait plus, dans la nouvelle programmation européenne, ne serait plus reconnue, et donc avec là une perte de soutien financier pour les éleveurs qui peut être importante. Voilà, donc diversité des ressources fourragères, diversité des pratiques de déplacement, de saisonnalité, diversité des systèmes d'élevage associés, diversité des structures de propriété, d'exploitation du sol, avec notamment, voilà, je ne peux pas tout aborder, mais un poids qui peut être très inégal dans les formes collectives à la fois du sol et des espaces utilisés par le pastoralisme, diversité aussi du collectif du côté des éleveurs, hein, qui sont organisés collectivement, individuellement. Est-ce que les surfaces utilisées sont privées, sont collectives? Quelle forme de collectif? Voilà. Si on regarde dans les Pyrénées, les formes collectives sont très très importantes. Si on regarde dans le Massif central, elles le sont beaucoup moins, sauf pour nos affaires de sectionaux, là, de biens de section, qui introduisent là aussi une autre forme de complexité et de diversité dans les formes de pastoralisme. Ce qui rejoint aux deux idées là, que j'ai soulignées en rouge, d'abord la difficulté qui est pour quantifier tout ça, hein. Et puis, évidemment, les perspectives de certains systèmes ne seront pas les mêmes selon où on se trouve. Voilà. Donc, une grande diversité. J'y reviendrai d'un mot tout à l'heure. Les systèmes pastoraux qui se portent le mieux, globalement, sont ceux qui sont parvenus à maintenir une production laitière et fromagère, par exemple, par rapport au système viande, qui ont beaucoup plus de difficultés, si on raisonne, y compris à l'échelle européenne. Voilà. En insistant aussi, notre manière d'aborder la question, quand même, ça peut être l'importance des surfaces utilisées. Alors, il y a une recherche récente qui a estimé peut-être à 4 millions d'hectares d'espaces de montagne qui sont utilisés par des transhumants. On a réussi à calculer ça, mais à l'échelle européenne. Et j'avais dû vous mettre une dernière carte là sur justement les aides de la politique agricole commune, les aides surface qui sont admissibles en France en 2015, selon les types d'espaces, prairies permanentes, etc. Et vous avez en orange, voilà, ce qui peut être identifié comme des surfaces pastorales ou des bois, des espaces boisés, pâturés. Et donc vous voyez un peu la spécificité de cette France du sud méditerranéenne, finalement, dans le pastoralisme, finalement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de pastoralisme en Normandie, mais on est dans d'autres formes. Ça sera plus anecdotique. Voilà un peu un portrait un peu rapide de ces formes et de ces questions de pastoralisme. Désolé de survoler peut-être un peu trop tout ça. Le deuxième point sur lequel je voulais entrer un petit peu plus dans le détail, voilà, c'est un peu sous-titre de l'intervention, crise et recomposition, voilà, le pastoralisme aujourd'hui, est-il finalement l'élevage, l'élevage qui convient. Alors, quatre idées très, très, très simples. D'abord, première idée, peut-être qui peut renvoyer plus à la crise, mais il y a aussi des formes d'adaptation, mais c'est de dire que l'économie des exploitations pastorales est plutôt, je mets en crise, le mot est peut-être fort, mais voilà, tous les systèmes pastoraux, quand on combine beaucoup de travaux qui sont conduits, avec ou sans transhumance, avec ou sans déplacements, non plus aujourd'hui, je suis un peu brutal, peut-être un peu caricatural, mais non plus la rentabilité financière suffisante pour que les éleveurs vivent de leur production. Ce qui peut être quand même un grand tournant par rapport, y compris à des travaux historiques, hein, sur à la limite ce qui était une source de richesse extraordinaire que le pastoralisme. Et donc ça signifie que tous les systèmes pastoraux sont à la recherche de sources de revenus nouveaux ou de combinaisons de sources de revenus. Alors que ça passe, c'est mes deux dernières lignes, par des aides publiques, qui vont venir compenser, mais comme le reste de l'élevage, hein, les prix et donc les revenus des éleveurs, qu'on appelle dans le jargon européen le premier pilier de la PAC, donc des aides aux revenus des éleveurs, ce qui renvoie bien l'importance de bien identifier ces éleveurs et leur cheptel, quelques cas caricaturaux en Corse, mais voilà. Et puis peut-être surtout ce fameux second pilier de la politique agricole commune qui vient là pour apporter des aides qui vont renvoyer à une reconnaissance des services qui peuvent être rendus par l'agriculture en général, par l'élevage en particulier, et peut-être encore plus en particulier par le pastoralisme, avec des types de soutien, je ne vais pas rentrer dans la technique, hein, mais des mesures spécifiques, notamment pour entretenir des espaces à valeur environnementale, à haute valeur environnementale, dans certains cas, que ce soit des aides qui sont relativement directes ou qui soient des aides contractualisées, on va dire, avec des éleveurs ou des regroupements d'éleveurs. Ce qui renvoie bien, ce que je vous disais précédemment, à l'intérêt de bien repérer ces surfaces et cette valeur environnementale de certaines surfaces qui peuvent bénéficier de ces aides. Et si on les enlève, c'est pas la même chose que si on les garde. Et puis aussi, d'autres questionnements qui peuvent être sur la protection par rapport au risque d'incendie notamment dans certains espaces méditerranéens où il peut y avoir aussi là d'autres types de soutien. Si je veux être caricatural, c'est le côté prime, hein, aide au pastoralisme, aide publique. Et puis l'autre forme qui était le premier alinéa, c'est évidemment rechercher d'autres sources de revenus ou compléter ces revenus ou rechercher une plus-value dans ces revenus plus directement avec des ressources, des biens matériels, des produits de l'élevage ou des diversifications, des complémentarités qui peuvent être recherchées. Alors, ça peut passer évidemment par la recherche d'une valeur ajoutée sur les produits même du pastoralisme, le lait, le fromage, la viande, de façon anecdotique d'autres produits comme la laine ou le cuir par exemple. Ça peut passer évidemment par la reconnaissance via à l'échelle européenne aussi sur des identifications géographiques, des signes lié à la qualité, à l'origine des produits, hein. Donc, appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, voilà, ou d'autres formes de labels, en notant tout de suite que, en l'état, quand on essaye de recenser les signes officiels de qualité reconnus à l'échelle nationale européenne, spécifiquement liés au pastoralisme, ils sont finalement très très peu nombreux et renvoient plutôt à des niches parfois liés d'ailleurs, on parlait du parc des Cévennes par exemple, aussi à d'autres acteurs, et notamment les parcs qui peuvent identifier et avoir une marque, mais on n'est pas au niveau supérieur du label des signes de qualité d'origine européen, mais voilà, et donc sur quelques produits, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont réalisées. Dans certains pays méditerranéens, c'est vrai que certains labels, certains signes officiels de qualité, notamment sur les filières fromagères, compte tenu de la place du pastoralisme dans ces espaces, là, on peut assimiler un peu plus ces signes à une forme de valeur ajoutée apportée au pastoralisme. Mais quand on est est-ce que le fromage AOP de Roquefort, c'est la reconnaissance absolue du pastoralisme, la reconnaissance d'un élevage, mais il prend pas toujours la forme pastorale telle que je l'ai définie tout à l'heure. Mais après, on peut avoir un autre regard en disant que peut-être la moitié, si on prend du côté des éleveurs, la moitié des exploitations françaises qui ont une forme d'exploitation qui peut utiliser des prairies, ont accès à des signes officiels de qualité. Mais ça ne dit rien des revenus, ça ne dit rien de la réalité. Voilà, je prends le recensement agricole va nous dire ça, mais ça ne dit rien de la place que ça occupe finalement dans le système d'exploitation. J'ajoute, pour fréquenter beaucoup aussi les pays méditerranéens et la Grèce, que, alors je pense à la Grèce notamment, que dans certains cas, et là ça renvoie aussi à des pratiques sociales, culturelles, au-delà du label, du signe officiel, de la marque, de la norme, il y a aussi des habitudes d'achat et de consommation de la population, dans lequel finalement le label n'est pas important, par rapport à la connaissance alors qui peut renvoyer à des réseaux de parentèle, à des réseaux de connaissances, à des réseaux territoriaux, par rapport à la connaissance que l'on a de tel lieu. L'habitant d'Athènes va peut-être rechercher le fromage originaire de la montagne pastorale d'origine, parce qu'il a sa famille qui partie de sa famille qui y réside, parce qu'il a un réseau d'approvisionnement, parce que le label finalement ne jouera aucun rôle. Ce qui a conduit d'ailleurs, micro-parenthèse, mais les collègues de l'université de Thessalie depuis quelques années a monté un projet qui s'appelle Terra Thessalia, où finalement, au-delà du label, ils ont essayé de constituer un peu un petit cluster, on dirait, d'acteurs de ce territoire, sans créer une usine à gaz, si je puis dire, de label, pour que les consommateurs puissent, en regardant leur téléphone ou leur ordinateur, puissent suivre par exemple les déplacements des troupeaux. Les collègues de l'université ont mis un collier avec un GPS à quelques brebis dans chaque troupeau, et de chez soi on peut bien voir que le troupeau fait bien du pastoralisme, voilà, tout ça plaqué sur des photos aériennes, vous voyez ce que ça peut donner. Et voilà, c'est une forme de relation de confiance qui peut être créée aussi entre le consommateur et le producteur en utilisant les outils numériques d'aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des dimensions plus diverses dans la valorisation. Juste pour dire que quand même, sur cette valorisation, ou sur des formes de diversification, y compris d'agrotourisme, associé, en France, ça va être plutôt quelque chose de très fort dans les Vosges, beaucoup moins dans d'autres massifs, mais dans tous ces cas, c'est bien l'image quand même d'un élevage, valeur naturelle, extensif, qui est mise en avant, qui entretient des paysages, etc. C'est aussi ça qui fait la valeur de ces produits. Bon, mais voilà, une économie quand même en crise et qui tente de s'adapter. Deuxième souci, interrogation sur cette crise du pastoralisme, ces crises du pastoralisme, ça reste la question de l'accès aux ressources pastorales, ces espaces ressources que j'évoquais tout à l'heure. multiplient d'abord des espaces qui sont très divers, mais qui globalement et de plus en plus sont soumis à des fortes pressions. Or, qui peuvent renvoyer à des statuts parfois très compliqués quand vous discutez avec un certain nombre d'éleveurs, mais aussi d'élus locaux, ils peuvent dire y aurait bien des espaces à utiliser, qu'on pourrait faire utiliser par des éleveurs, mais leur statut est trop compliqué, on n'y arrive pas, il faudrait faire de l'animation auprès des propriétaires, etc. Et ça, vous le retrouvez à l'échelle de toute l'Europe et de toute l'Europe méditerranée. Donc, question de statut précaire. Question surtout de l'urbanisation. Alors, urbanisation en plaine, comme lieu parfois sans trop d'hivernage des troupeaux, mais urbanisation aussi en montagne, avec, un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand même, en Savoie, avec le tourisme, avec la pression urbaine dans les vallées aussi. Des rapports propriétaires-exploitants qui ont toujours été compliqués s'agissant du pastoralisme. Alors, face à ça, sans rentrer dans le détail, mais les politiques publiques sont assez modestes, si on raisonne à l'échelle européenne. Il y a quand même quelques exceptions. Alors, en Italie, par exemple, depuis plusieurs années, il y a des règles d'utilisation, des terres qui ont été mises en place avec des comités de gestion un peu locaux. En Espagne, en Castille notamment, province de Castille-La Mancha, il y a une organisation qui est faite, qui est portée par le gouvernement de la province pour mettre à disposition du foncier, pour transférer les droits d'usage, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il y a localement des choses. En Grèce, il n'y a rien. Donc c'est très, très variable. Alors en France, j'ai mis l'exception française, parce que c'est vrai que c'est un élément qu'il faut mettre dans le débat, j'y reviendrai d'un mot. Il y a cette fameuse loi pastorale de 1972 qui a introduit quand même des innovations assez fortes par rapport à ces questions d'accès aux ressources. Pas rentrer dans le détail, mais notamment en essayant d'organiser un peu les choses, alors en créant les fameuses associations foncières pastorales pour regrouper un peu les propriétaires, et puis dans l'autre sens, en créant les groupements pastoraux pour regrouper plutôt les éleveurs, donc on va arriver à des formes un peu collectives. Et puis troisième outil de cette loi, ce qu'on appelle les conventions pluriannuelles de pâturage, qui peuvent donner un cadre un peu de sécurité relative pluriannuelle pour utiliser ces pâturages. Voilà, mais ça reste un enjeu important. Troisième enjeu, c'est la question des éleveurs, de la transmission des savoirs, des exploitations, des cultures techniques du pastoralisme, des cultures parfois millénaires. Et avec des pratiques, des savoir-faire, encore une fois, qui méritent, dans leur dimension culturelle, d'être transmis. Donc, ce qui peut renvoyer à l'image du métier, ce qui peut renvoyer évidemment à la transmission, à l'installation de nouveaux éleveurs, y compris par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Ça veut dire des questions de formation. Est-ce qu'il y a des écoles de bergers présentes? Et voilà, on a en France l'école des bergers en Provence, au Merle, qui voit fluctuer ses effectifs. Ça, c'est très intéressant, avec des périodes où il n'y en avait plus, puis des périodes où ça revient aussi. Justement, j'arrive pas à mon sujet aussi, ça, tout ça peut renvoyer à l'image que peuvent avoir des jeunes de ce métier. À un moment donné, du rapport à l'animal, du rapport à la nature, du rapport à... Et comment favoriser un peu ce renouvellement. Voilà, j'ai classé un peu ces trois thèmes qui peuvent vraiment poser question, qui peuvent renvoyer presque aussi à des... Voilà, j'utilise le mot de crise, finalement, l'accès aux ressources, l'économie, et puis les savoirs. Et puis en face, mon dernier point, là, c'est... Par contre, il y a aussi des atouts, quand même. Il y a les valeurs ajoutées du pastoralisme. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu la fleur de l'élevage, c'est-à-dire montrer que les collègues de l'INRA ont construit, montrer un peu tout ce que l'élevage peut apporter dans sa diversité en termes de vitalité sociale, d'économie, d'environnement, de patrimoine et de culture. Bon, sans rentrer dans le détail, évidemment, le pastoralisme, c'est une source d'emploi. C'est des productions parfois spécifiques, en tout cas très diversifiées, partie de l'économie. Mais c'est aussi un fort lien entre pastoralisme et haute valeur naturelle, et dans toute sa dimension, conservation de la biodiversité, relation à la qualité de l'eau. Il y a des vrais enjeux par rapport à l'eau sur les espaces pastoraux aussi, notamment méditerranéens. Et puis, c'est des dimensions de paysages patrimoniaux, de patrimoine gastronomique parfois, de culture. Voilà, et donc un ancrage territorial finalement qui peut être vecteur aussi de liens sociaux, d'aménité culturelle. Enfin, toutes ces dimensions finalement sont présentes dans le pastoralisme. D'où l'idée, encore une fois, que ça peut paraître l'élevage parfait, quoi. La forme qui réunit le mieux tout ça. Alors, sans trop rentrer dans le détail, juste peut-être trois petites idées. Voilà, ce que j'ai appelé un peu le pastoralisme, c'est une bioculture, voilà, qui renvoie bien cette relation fusionnelle entre une pratique d'élevage, des animaux et des milieux parfois dits naturels, pas totalement, mais voilà, dimension extrêmement forte. C'est une valorisation des environnements qui est importante. Alors il y a eu travaux là, un rapport en 2008 là, qui a essayé un peu d'inventorier un peu ces espaces pastoraux à l'échelle européenne, et qui, toujours la valeur de la statistique, ne la prenons pas trop au sérieux, mais qui dit voilà, c'est le pastoralisme, il peut vraiment valoriser plus de la moitié d'espaces à haute valeur environnementale en Grèce, Portugal, en Espagne. Peut-être un tiers d'espaces à haute valeur naturelle en Bulgarie, en Roumanie, en Italie, un peu moins d'un quart en France, la moyenne européenne étant, dans cette étude, étant à 32% d'espaces à haute valeur environnementale qui peuvent être utilisés par le pastoralisme. Donc voilà, valorisation qui peut paraître très intéressante. On pourrait parler des enjeux aussi liés au réchauffement climatique, j'ai pas le temps. Voilà, il y a plein de dimensions où cette valorisation des environnements est très intéressante. Et puis, troisième point, cette question du patrimoine culturel, avec beaucoup d'expériences, beaucoup de choses qui se font dans les espaces pastoraux, dans les régions, dans les territoires. J'ai noté juste là les chemins de transhumance avec beaucoup d'actions engagées en Espagne, en France aussi, avec un projet un peu sur ces cultures pastorales là, en Provence, autour de Marseille, et un projet qui est un peu avancé là, ce qui s'appelle la route, R-O-U-T-O. Voilà, vrai travail qui est fait, y compris avec des archéologues, des historiens, des acteurs du tourisme, voilà, qui réunit un peu tous les acteurs pour valoriser ces itinéraires de transhumance entre la France et l'Italie, avec une dimension de patrimonialisation, évidemment, très forte. J'ai parlé de l'inscription UNESCO paysage culturel mondial des Causses et Cévennes, paysage culturel de l'agropastoralisme écossais Cévennes, c'est l'intitulé exact. Et puis vous avez aussi des reconnaissances sur les chemins royaux de transhumance en Italie, sur le réseau des via pecuarias en Espagne, enfin, etc., etc. Donc voilà, je ne peux pas développer, mais vous voyez, toutes ces ressources, on se dit, c'est formidable. Sauf que, dernier point que je voulais évoquer dans mon intervention, on est peut-être aujourd'hui dans une nouvelle phase des relations des sociétés à l'espace et à l'animal, qui fait que finalement ce pastoralisme qui offrait presque tous les atouts, hein, eh bien, il est quand même largement remis en question, ou en tout cas, on pourrait dire que ses atouts ne sont peut-être pas valorisés, mobilisés autant qu'on pourrait le penser. Alors, avant de rentrer un peu dans les explications, je reprends un peu les travaux de notre collègue de Toulouse, la Corinne Echen, un travail qui n'a pas été encore publié, mais qui sera bientôt, que j'ai un peu adapté. Voilà, elle distingue, alors surtout avec son regard pyrénéen, mais elle distingue un peu trois phases. Voilà, dans ses relations. Une première phase, on va dire, un peu plus historique, système pastoral traditionnel. Alors, je sais bien que les historiens n'aiment pas bien trop quand on dit traditionnel, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est vague. Mais voilà, on va dire au moins jusque dans les années 70, y compris avant cette loi pastorale dont je parlais tout à l'heure. Voilà, où on est peut-être dans une vision peut-être aussi idyllique, édulcorée, mais voilà, où on est dans une relation organique entre éleveurs, bergers, animaux et territoires. Le système pastoral, finalement, valorise finement les espaces, les ressources de végétation, est un principe fort d'organisation des sociétés, dans sa dimension collective, y compris dans sa dimension sociale, y compris les pauvres dans les villages peuvent avoir accès à la ressource pastorale. Alors, il y a toujours des inégalités quand même, mais voilà, on est dans une forme où la relation à l'espace, où la relation à l'animal peut paraître parfaite, les bergers, les éleveurs, entretenant des rapports très étroits à l'animal, avec des savoirs multiples, y compris dans les soins vétérinaires, entre guillemets, dans la présence aux côtés des animaux, j'allais dire presque non-stop, presque, j'exagère, mais jour et nuit, sur les pâturages, voilà. Le berger est là tout le temps, s'occupe de son troupeau, à ses savoirs, etc. Préserve, gère des races locales dont le nom d'ailleurs de ces races est en relation avec le territoire, avec des qualités de rusticité, avec la biodiversité animale aussi. On est voilà. Bon, mais cette approche parfaite en quelque sorte, elle connaît quand même une crise. Hein, et assez précoce, parfois dès le 19e siècle, dès le début du 20e siècle, avec des remises en cause. Ces pratiques traditionnelles, entre guillemets, elles se décomposent parfois. L'exode rural fait que la pression sur ces espaces pastoraux diminue et qu'il y a des formes de déprise, que ces systèmes sont un peu inadaptés à l'agriculture productiviste qui va se mettre peu à peu en place au XXe siècle. Je glisse peu à peu après la deuxième guerre mondiale. Et que parfois ce pastoralisme-là, du coup, il est plutôt envisagé comme une forme un peu archaïque de pratiques inadaptées, etc. Et pas adaptée à une vision du progrès telle qu'on peut l'imaginer à ce moment-là. Du coup, on va passer à un deuxième stade que Corinne Echen appelle un peu le stade agri-environnemental et patrimonial, années 70-2000, qui naît d'une prise de conscience aussi de la déprise, de l'abandon, peut-être de la perte de savoir, du pastoralisme, de sa grande valeur environnementale et culturelle. Intervention des acteurs du pastoralisme, des acteurs des territoires, des chercheurs aussi, pour s'intéresser peut-être un peu plus à cette forme d'élevage. Politique publique qui est lancée avec cette loi pastorale de 1972, décret qui met en place l'indemnité spéciale montagne, etc., tournant un peu des milieux des années 70. Et finalement, le pastoralisme est vu un peu à travers deux piliers, si je puis dire. Un pilier qui visait à maintenir l'élevage pastoral pour ses fonctions d'intérêt général, en reconnaissant la spécificité des espaces qui sont occupés, des pratiques qui sont occupées. Et puis un deuxième pilier qui est le pilier de la à une époque, on utilisait ce terme de jardinier de la nature pour ses éleveurs. Voilà. Puis il y a un peu plus environnemental aussi. Ça va de pair avec la montée en puissance du paradigme agri-environnemental dans les années 90. Voilà. Et donc on va légitimer finalement le pastoralisme au nom de l'occupation de l'espace, au nom de la valorisation de ces environnements, au nom, on pourrait dire presque, d'une excellence environnementale et patrimoniale de l'élevage pastoral. Sans d'ailleurs peut-être que les premiers concernés, les éleveurs, soient d'ailleurs bien interrogés sur est-ce que ça correspond, ces visions-là, elles correspondent à leur pratique et à leur vision. Alors, ça permet de protéger et de maintenir le pastoralisme, mais finalement, c'est aussi une source de vulnérabilité qui va déboucher un peu sur la troisième étape, une source de vulnérabilité parce qu'on assigne finalement au pastoralisme un rôle d'entretien du patrimoine naturel et culturel, en quelque sorte, et peut-être qu'on ne reconnaît pas une identité professionnelle, on ne reconnaît pas aussi les autres services apporté par le pastoralisme. Et on arrive à cette question, d'une remise en cause, que je dis discrète, du pastoralisme, parce qu'on peut avoir encore des discours positifs, mais finalement qui s'insinue peu à peu, et auxquels les éleveurs, quand on les rencontre, sont très sensibles. Il y a plein d'acteurs de ces territoires, il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette vision du pastoralisme par rapport à cette approche agri-environnementale, patrimoniale, qui était... Finalement, comment l'interpréter et j'en viens à mon fil là, sur les nouvelles relations à l'animal et à l'espace. Bon, moi, j'insisterai un peu pour comprendre ce changement et cette remise en cause un peu discrète. J'insisterai sur trois processus. Bon, le premier, il est central, je pense, c'est la question de la prédation, des conflits autour du retour des prédateurs, loups, ours ponctuellement, les Pyrénées, lynx, voire rapaces dans certains cas, qui, dans une espèce de processus complexe, de jeu d'acteurs complexe, on vient à finalement déconstruire peu à peu la symbolique positive du pastoralisme. Et là, au fond, il y a une question très forte de relation à l'animal. Encore une fois, l'animal domestique, les troupeaux, et puis l'animal sauvage, prenons le loup, auquel les sociétés finalement vont peut-être introduire une nouvelle relation plus forte, plus féconde. Cette approche, cette forme de relation à l'animal sauvage va donc engager un processus favorable à la présence des prédateurs. Et finalement, réinterrogeant une autre forme de valorisation de l'environnement, de la nature, on va considérer que finalement peut-être que pour valoriser ces environnements naturels, ben peut-être il faut le loup est aussi important que le mouton, je caricature, mais voilà. Et puis, selon cette approche aussi, la légitimité des acteurs pastoraux dans la gestion des territoires de montagne est finalement aussi remise en cause. Je cite un texte de l'association qui défend le retour du loup. Il est donc faux de dire qu'aujourd'hui le pastoralisme est un rempart contre la fermeture des milieux, car ces derniers se referment de toute façon, très massivement partout, et c'est souvent une bonne nouvelle du point de vue de la biodiversité, de la remise en place naturelle d'écosystèmes, allant vers un état aussi complet que possible, les ongulés étant rééquilibrés par les prédateurs, autonomes et fonctionnels, rendant par définition de nombreux services à la société, multifonctionnalité, de la forêt, etc. Donc vous voyez, on inverse complètement ce qui était presque ce qu'on mettait en avant par rapport au pastoralisme. Et dans une vision peut-être moins forte, je ne porte pas de jugement, hein, pourrais dire moins radical, mais je ne porte pas de jugement, la défense aussi d'une possible cohabitation entre le pastoralisme et les grands prédateurs peut mettre aussi en évidence, voilà, c'est moins fort, mais l'idée que, oui, il peut y avoir du pastoralisme, mais pas toutes les formes de pastoralisme. Il y a des bonnes formes de pastoralisme et des mauvaises formes de pastoralisme. Et oui, on peut maintenir le pastoralisme, mais encore faut-il que ça soit un bon pastoralisme. Et donc, on introduit presque une hiérarchie de valeurs dans un système en disant, voilà, il y a peut-être des formes de pastoralisme qui sont pas, entre guillemets, compatibles, parce que justement les éleveurs se sont désintéressés des animaux, sont moins présents, les laissent parcourir la montagne sans présence humaine, alors que l'image c'était, voilà, c'était le berger qui était avec ses troupeaux et que l'on pouvait voir, voilà. Et donc ces formes d'extensification extrême qui peut exister dans certaines zones correspondent pas un modèle du bon éleveur, en quelque sorte. Et finalement, dans tout ça, le pastoralisme se trouve un peu confronté, en quelque sorte, à une double assignation sociale. D'une part, même si les éleveurs peuvent valoriser l'environnement, il faut qu'ils adaptent leurs pratiques, qu'ils les changent. Et d'autre part, ces pratiques finalement peut-être que elles sont plus compatibles avec le retour du loup, par exemple. Et alors tout ça conduit quand même à des conflits, hein, qui peuvent être assez virulents. Puis il y a même deux sortes de conflits. Il y a le conflit aussi, peu à peu, avec des éleveurs qui vont bénéficier des chiens de protection. Et il va y avoir aussi maintenant les conflits entre les chiens de protection qui mordent les randonneurs, les fameux patous, et avec des choses qui peuvent prendre des dimensions très juridiques. Et puis avec des personnes qui... Voilà, il y a des cas actuellement là qui paraît très grave, hein, de personnes blessées, avec des situations de handicap, et tout ça va vers les tribunaux, ça devient très très compliqué, etc. Donc il y a plein de conflits qui... Alors, le patou, c'est aussi un autre rapport à l'animal, d'ailleurs, on pourrait en parler longuement, mais il y a plein de conflits qui font que les gens du pastoralisme, les éleveurs, les bergers, peuvent être vus aussi comme des acteurs contre l'animal. Le rapport change. Alors qu'ils pouvaient être vus comme les acteurs qui avaient les meilleures relations à l'animal, ils peuvent être vus contre l'animal, et notamment contre l'animal sauvage, entre guillemets, en l'occurrence. Et des discours des éleveurs anti-loups, parfois extrêmes, qui finissent par donner l'image d'opposants aussi à l'environnement, à la nature. Et là, de nouveau, on inverse complètement le modèle. Bon, je vous avais mis des illustrations sur ces attaques de loups, les animaux victimes, et la progression avec un petit ralentissement là, dans les années 2005-2007, quand on a mis en place les moyens de défense, et justement, ces patous qui ont marché quelques années, comme dit le document, et puis les données... montre de nouveau la progression des animaux, des troupeaux protégés aussi. Il faut dire aussi que les éleveurs n'ont pas pris, s'en sont pas préoccupés, etc. Puis il y a des soutiens publics qui sont... voilà. Et ce qui veut dire que les impacts de la prédation sont de plus en plus forts sur des systèmes qui ont tenté de s'adapter et sur des territoires qui ont aussi tenté de s'adapter. Deuxième point, mais je vais être beaucoup plus bref, puis après je vais dépasser, mais dans cette remise en cause discrète, il y a aussi la contestation. Alors on quitte un peu le pastoralisme, il y a la contestation plus globale, plus indifférenciée de l'élevage, avec les discours anti-viande. Je ne fais pas de long discours là-dessus. Jusqu'à des formes théologique très, 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 très forte. Tous ces débats sur le bien-être animal, sur ou l'intensification ou l'extensification de l'élevage et l'image même de l'éleveur, et qui sont des discussions finalement qui peuvent paraître au départ. Et, alors, bien sûr, le discours anti-viande, certes, le pastoralisme peut produire de la viande, des fromages, etc., mais qui peuvent paraître un peu éloignés de la spécificité du pastoralisme, mais qui finissent par être mis dans le même paquet. Avec une. On finit par ne plus distinguer les formes d'élevage en traque, c'est-à-dire que le feedlot très intensif des plaines américaines est mis dans le même panier finalement que le pastoralisme et les savoirs pastoraux des vallées alpines. Et finalement, la qualité du rapport à l'animal qui pouvait faire quand même et du bien-être animal en montagne, des animaux qui ne sont pas dans des bâtiments, qui ont des grands espaces, etc., tout ça finit par être gommé complètement par cet amalgame finalement qui se fait autour de l'élevage. Et puis troisième point de remise en cause, j'en ai déjà un peu parlé, ce qu'un collègue géographe appelait la lutte des places, pas des classes, mais la lutte des places, c'est-à-dire les concurrences finalement qui se font jour. Alors j'en ai parlé un peu sur le foncier, sur la patrimonialisation, sur les différentes demandes que l'on peut faire par rapport au pastoralisme, et y compris dans les territoires. Finalement, on voit des personnes qui souhaitent, par exemple, s'installer dans l'agriculture, dans les Pyrénées, dans le Massif central, dans les Alpes, dans les Balkans, ce que j'ai pu observer dans la Grèce, par exemple, et qui on porte des projets qui n'ont plus rien à voir avec le pastoralisme, qui peuvent être des projets pour produire des fruits, pour faire une petite transformation fermière, etc., et qui peuvent rentrer là aussi en conflit avec les formes d'élevage existant dans ces zones. Ça, c'est une forme. Une autre forme, évidemment, c'est la patrimonialisation qui s'opère dans certains cas, qui peut aussi rentrer en concurrence avec les formes d'élevage présentes, vivantes dans ces territoires. Voilà. Et donc, si vous cumulez ces trois processus, vous avez là, encore une fois, des processus qui peuvent renvoyer, pour une part, la perception qu'ont nos sociétés, nouvelle perception qu'ont nos sociétés du rapport à l'animal, vous avez peu à peu une remise en cause d'une forme d'élevage qui pouvait paraître finalement la plus adaptée à nos espaces et peut-être à nos attentes de la société. Et c'était un peu le paradoxe sur lequel je voulais insister, et je vous remercie de votre attention. J'ai pas résisté au fait de mettre une photo avec mes brebis, puisque j'ai eu une activité dans le passé. Vous voyez, l'enseignement, ça mène à tout. Une activité de berger.
Je trouve la définition du mot pastoralisme compliquée, parce que avec des regards différents, on peut avoir des suppositions très nettes. Par exemple, j'ai un peu de mal à différencier l'herbage, le pâturage, et les lieux de l'herbage, les lieux du pâturage et les lieux du pastoralisme, avec quand même un peu l'idée qu'on irait d'une ressource de la plus riche vers la moins riche, c'est-à-dire d'une herbe la meilleure à l'herbe la moins bonne d'un point de vue agronomique. Et puis si on regarde ça du côté de l'éleveur, on a l'aspect inverse, c'est-à-dire que le pastoralisme pourrait être un plus en termes, comme tu l'as évoqué, de système, dans la mesure où il y a une proximité très forte entre l'éleveur et la bête, et ce qui serait très différent des agriculteurs très productivistes, ou à l'inverse, on peut aboutir à une absence totale de relations. Et alors, comment on peut articuler ces définitions, et comment on pourrait définir de manière à la fois humaine et naturelle ce mot, enfin, comment on peut l'utiliser?
À mon sens, c'est bien, c'est un gradient, mais plus on va vers une utilisation de surface semi-naturelle, assez extensive, voilà, d'utilisation d'herbes moins bonnes, pour reprendre ta formule. Et d'un autre côté, des systèmes où peut-être la relation à l'animal et la présence, le déplacement dans les pratiques est forte. Il y a un moment, ces deux lignes se croisent, et c'est peut-être là qu'on a le cœur du pastoralisme. Mais dans les définitions, effectivement, on peut avoir des formes où il y a une part de pâturage un peu plus riche, où il y a une part, voire, de prairies cultivées, où il y a une part où l'éleveur est peu présent avec les animaux. Ah, je pense qu'il faut le voir plus en termes de gradient, et à un moment on arrive sur des systèmes pastoraux, je ne sais pas s'il faut dire vrai, mais qui allient un peu ces deux dimensions-là.
Moi j'avais juste un petit parallèle à faire entre ce regard négatif qui est porté sur le pastoralisme aujourd'hui, et finalement la situation du 19e siècle, où le même regard négatif, et pour d'autres raisons, a été porté par rapport au problème d'érosion des sols et de torrentialité, et finalement, est-ce qu'on n'est pas toujours dans la même logique d'un regard externe qui est porté sur ces espaces, et qui est d'une certaine manière un regard de domination finalement sur ces espaces montagnards qui se prolongent aujourd'hui à travers cette remise en cause du pastoralisme, à travers donc une vision qui est extérieure à la montagne?
Je te rejoins, oui. Même si les regards extérieurs ont pu aussi dans l'histoire être positifs aussi. Je veux dire, les villes qui s'enrichissaient par le commerce de la laine ou pouvaient avoir un regard positif aussi sur voilà. Mais, ouais, effectivement, il y a un retour. Mais peut-être que la différence, ce regard négatif qui revient, peut-être qu'il est un peu plus centré sur le rapport des sociétés, là, à l'opposé, sur la nature que l'on veut.
Voilà. Les moteurs ne sont plus les mêmes. Ouais.
Alors qu'au 19e, c'était presque la nature qu'on voulait maîtriser.
Voilà.
Moi, je voulais revenir sur votre terme de valorisation de territoire. J'aime pas ce terme. Parce que sinon le territoire n'a pas de valeur, c'est ça que vous voulez dire? Vous voyez, alors j'exagère un peu le truc. Et ça c'est une chose, et l'autre chose c'est que pour moi il y a énormément de territoires qui n'existeraient pas sous la forme où ils sont s'il n'y avait pas eu de pastoralisme. Contrairement à ce que les gens du Loup disent, le pastoralisme maintient des milieux ouverts et est extrêmement important pour une certaine forme de biodiversité, pour un certain nombre de choses. Et donc tout l'aspect historique, le fait qu'il y ait eu du pastoralisme depuis plusieurs millénaires en Europe, fait qu'on a les paysages tels qu'ils sont maintenant. Et donc, est-ce que vous prenez ça en compte dans votre réflexion et dans votre système?
Oui, évidemment, oui.
Moi, si je peux rajouter quelque chose, je suis tout à fait d'accord. Il y a un peu l'utopie d'une nature naturelle, hein,
oui.
Qui n'existe pas en fait.
En Europe, non.
En Europe, même ailleurs, c'est très...
Il y a plein d'endroits,
sous contrôle de spécialistes, hein, mais même en Amazonie, il paraît que ça n'existe pas. Alors, donc, bon.
Mais voilà, donc il y a très très peu de territoires qui n'ont pas été touchés par l'homme, et pas profondément touchés par l'homme. Donc effectivement, l'idée de nature naturelle, effectivement, moi ça me fait bien rigoler, mais voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que revenir à un état naturel, en plus avec les glaciations, etc., on ne sait plus quoi.
Y compris ces espaces pastoraux, ils ont aussi varié. Voilà, je renvoie aux travaux des archéologues, voir.
Et en parlant des défrichements et des érosions, ouais, etc., il y a eu des variations énormes, ça c'est clair.
D'autant plus que sous le prétexte de se rapprocher d'être plus proche des animaux, de respecter davantage les animaux, en valorisant les animaux sauvages, on crée une distance beaucoup plus importante entre l'homme et l'animal. Puisque Si on valorise l'animal sauvage, on valorise une distance importante entre l'homme et l'animal par rapport à la distance qui existe entre l'animal domestique et l'animal et l'homme. Alors c'est paradoxal, hein. Sous prétexte on accroît la distance entre l'homme et l'animal sous prétexte de vouloir quelque chose de naturel et de respect des animaux.
Je ne suis pas d'accord. Il y a plein de gens qui vont dans la nature pour aller voir les loups. Ah oui, bien sûr. Rapprocher. Donc, la distance, oui, elle est variable.
Oui. Mais enfin, caresser un loup.
Non, si on est bien d'accord.
Et en lui disant Manuel Bruxelles, non, ça ne marche pas. Hein.
Mais
ça, c'est pas avec les vaches, avec les loups.
On
n'a
pas besoin de caresser pour avoir une proximité et aller voir, aller vers.
Et puis après, voilà, il y a l'animal d'élevage, domestique, et puis à niveau de compagnie, c'est encore, oui, il y a deux champs un peu différents.
Il y a une relation du berger avec les animaux de l'élevage.
Bien.
De nombreux éleveurs aussi ont une relation avec leurs animaux.
Bien sûr. D'ailleurs, on avait suivi une thèse sur la relation agriculteur-nature, enfin, éleveur-nature, avec un N majuscule. Ça n'existe pas, mais et y compris, il y avait trois terrains qui avaient été choisis, un très pastoral dans les Pyrénées, un peu intermédiaire ici dans en Auvergne, et puis des systèmes hyper intensifs, dans les Deux-Sèvres, y compris d'élevage parfois hors sol. Et ce que la doctorante montrait, parce qu'elle a fait tout le boulot, mais c'est que, y compris quand même dans ces systèmes intensifs des Deux-Sèvres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation des éleveurs à l'animal. Alors, il y a des formes peut-être différentes et plus fortes quand on est dans les Pyrénées, mais elles ne sont pas non plus absentes chez des éleveurs de poulets. Voilà. Enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, mais c'est intéressant aussi.
Après, c'est une des conceptions un peu appropriée de la nature, c'est ça. Et justement, dans des différenciations régionales souvent, ou spatiales.
Et à contrario, la relation de l'agriculteur ou de l'éleveur à la nature, elle est en fait très particulière et elle a volé en éclats avec l'arrivée du loup. C'est bien rendu compte qu'il avait une vision très, quand même assez productiviste de ce que c'était que la nature. Le loup ne fait pas partie de la nature qui l'intéresse. Enfin, pour beaucoup, ça a changé. Mais vous voyez, c'est ce que vous mettiez dans vos diapositives, la vision agro, éco, machin, en fait, elle n'est pas vraie. Elle n'a jamais été vraie. C'est juste ce qu'on mettait dessus, oui, et c'est l'image qu'on mettait dessus.
Quand c'est par domination, par la fuite de domination.
Ouais. Ce que je trouve intéressant dans tout ce qui a été dit, et ce que vous avez dit aussi, c'est que visiblement, ça déchaîne toutes les passions. Et il n'y a pas de juste quantification, et c'est certainement utopiste parce que c'est très complexe. Des services écosystémiques, des services aussi culturels que ça peut avoir, qui sont à la fois négatifs et positifs, forcément, c'est jamais ni positif ni entièrement négatif. Et du coup, je me demande si aujourd'hui, justement, on n'est pas plutôt justement vers essayer de les comprendre, de les quantifier. Est-ce que ça mettra fin à ce débat? Peut-être pas. Enfin, c'est un peu une remarque, mais du coup, je pense que tout ce qui a été dit avec passion, j'ai l'impression, c'est un peu symptomatique de ce que vous avez montré, simplement.
Non.